Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir et bienvenue dans ce magazine au cours duquel nous verrons ce que les journalistes allemands ont écrit sur l'actualité africaine. Et il s'agit bien de l'Afropresse qui sera présentée par Rémi Mallet. Bonsoir Rémi.
Bonsoir. Les médias allemands ont été nombreux à commenter la visite en début de semaine du chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel dans la Corne de l'Afrique. Ils ont aussi commenté la participation du ministre allemand des Finances au Forum économique mondial sur l'Afrique qui s'est tenu à Durban en Afrique du Sud.
Voilà les deux thèmes qui seront donc développés tout à l'heure. Rémi Mallet est resté avec nous dans ce studio et après l'Afropresse que vous allez présenter, eh bien ce sera Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains. Nafissa Amadou a interrogé ce soir Moussa Bamba, le président de l'Union des blogueurs de Côte d'Ivoire. Afrique 7 jours, c'est d'abord la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. La semaine qui s'achève a été marquée par la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, mercredi dernier. Donc, le Burundi, on le sait, est l'un des pays où la liberté de la presse est menacée. Cela fait bientôt 2 ans qu'il n'existe quasiment plus de médias privés, la plupart ayant été détruits ou fermés dans la foulée du coup d'État de mai 2015. Une situation que déplore Denise Mugugu, responsable de la maison de la presse à Bujumbura.
Il n'y a eu que 3 radios qui ont pu réouvrir. Et cela impacte non seulement sur la liberté de la presse, mais aussi sur la survie même des professionnels des médias. Quand on parle de la liberté de la presse, il faut penser que les journalistes sont des humains. Quand il y a des situations difficiles qui font peur, qui peuvent impacter sur leur subconscient, il y a parfois de l'autocensure qui surgit. Donc, quelque part, il y a l'effet extérieur qui réduisent la liberté de la presse, mais il y a aussi le subconscient du journaliste. À cause de la peur, à cause des situations qui sont arrivées à des collègues, à des confrères, à des consoeurs, on réduit un petit peu sa propre liberté.
Du Burundi, traversons juste la frontière pour nous retrouver de l'autre côté, en RDC voisine. Là-bas, de nombreux Congolais suivent de près la présidentielle en France, dont le second tour a eu lieu aujourd'hui, dimanche 7 mai. Même si, on le sait, la République démocratique du Congo n'est pas une ancienne colonie française, eh bien chacun là-bas a sa petite idée sur la question et les avis, vous allez l'entendre, sont partagés.
Nous avons tout intérêt à savoir ce qui se passe là-bas pour que nous ayons une idée sur ce qui adviendra par rapport au partenariat, par rapport à la coopération que nous avons, que ce soit dans les domaines économiques ou dans les domaines sécuritaires et même politiques. Prenant l'exemple de Mme Le Pen, elle prône la politique conservatoire, du genre la France sera réservée aux Français et tout là-bas, alors que l'Afrique, et spécialement le Congo, a des ressortissants qui sont là-bas qui pourraient être touchés par les mesures qui seront prises par Mme Le Pen si jamais elle devenait présidente de la France. Mais actuellement, je ne vois pas des citoyens civilisés porter leur choix sur quelqu'un qui voudrait se fermer au reste du monde.
Voilà, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, rendez-vous tout à l'heure, même dans une 20aine de minutes, pour savoir le nom du tout nouveau locataire de l'Élysée. Soyez donc patients. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité mardi un colloque pour penser l'avenir des chambres africaines extraordinaires. La juridiction qui a jugé et condamné il y a à peu près une semaine l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré pour crimes contre l'humanité. Lors de cette rencontre de Dakar, les participants ont étudié la possibilité de la création d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme. À ce sujet, je vous propose de réécouter ce qu'a dit à l'ouverture Maître Sidiki Kaba, le garde des Sceaux, ministre sénégalais de la Justice.
L'idée, c'est d'avoir une juridiction régionale chargée de lutter les crimes les plus graves. Donc il y a une volonté de lutter pour que ces crimes cessent de manière à ce qu'il y ait une stabilité dans nos États.
Et pour parvenir à mettre sur pied cette juridiction africaine dont parlait Sidiki Kaba, le ministre sénégalais de la Justice, il faudra des moyens. Or, on le sait, les budgets alloués à la justice ne dépassent pas généralement 1% du budget national dans certains pays africains, sinon dans la quasi-totalité des pays africains. Et c'est ce que a déploré aussi Aliou Ntin, le directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les participants à cette rencontre de Dakar, eux, ont été formels. L'Afrique doit juger ses dirigeants en Afrique, car selon eux, c'est une question de dignité et de souveraineté. Rémi Malé, je vous voyais hocher la tête, ça veut dire que vous connaissez bien cette chanson.
Bien sûr, c'est de la légende, c'est une légende qui chante Bob Marley, tout le monde le connaît, qui ne le connaît pas.
Voilà Rémi, les médias allemands ont été très nombreux à commenter, vous le disiez, la visite en début de semaine du chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, dans la Corne de l'Afrique.
Dans l'est du continent, donc, Sigmar Gabriel a entamé sa visite lundi par la Somalie. C'était un déplacement pour le moins courageux, voire brave, dans ce pays au bord de la famine, observe l'Augsburger Allgemeine Zeitung. En effet, selon l'UNICEF, plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année en Somalie. Des enfants qui courent des risques très élevés de mourir. Mais en Somalie, la sécurité inquiète au moins autant que la famine, comme en témoignent les conditions de la visite éclair du chef de la diplomatie allemande dans le pays. En Somalie, aucun visiteur ne souhaite passer plus de temps que nécessaire. Les miliciens du groupe Al-Shabaab contrôlent une grande partie du centre du pays ainsi que le sud. Sigmar Gabriel est arrivé à bord d'un avion affrété par l'ONU. Ses entretiens n'ont duré que 7h30. Aussitôt arrivé, il devait repartir sans tarder, raconte le quotidien d'Augsbourg. Il faut rappeler que depuis 2012, aucun ministre allemand ne s'était rendu en Somalie. À l'issue de sa visite, le ministre allemand des Affaires étrangères a promis de doubler l'aide de Berlin à la Somalie pour aider le pays à faire face à la sécheresse. L'aide allemande se levait jusqu'ici à 70 millions d'euros.
Et puis après la Somalie, Sigmar Gabriel s'est envolé pour l'Éthiopie.
L'Éthiopie, pays voisin de la Somalie, est un partenaire des pays occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, indique pour sa part la Schwäbische Zeitung sur son site internet, tout en rappelant aussi l'engagement des soldats éthiopiens contre les milices somaliennes d'Al-Shabaab. Le journal de Swab n'a pas manqué de faire le lien entre le passage du chef de la diplomatie allemande à Addis Abeba et la crise des migrants que vit l'Allemagne actuellement. Il rappelle à ce titre qu'en Allemagne, les demandes d'asile des ressortissants éthiopiens sont en forte hausse. De 748 en 2013, ils sont passés à 3987 l'an dernier, conclut le journal. Sigmar Gabriel a également rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki, à Addis Abeba. À ses côtés, le diplomate allemand a appelé à un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique et a regretté que l'aide au développement n'atteigne pas les concernés. Quant au ministre allemand des Finances qui participait mercredi au Forum économique mondial sur l'Afrique à Durban, il a indiqué qu'il était crucial de renforcer la coopération économique avec l'Afrique pour mettre fin aux migrations des jeunes du continent vers l'Europe.
Oui, parlant de coopération, le gouvernement allemand, on le rappelle, a déjà révélé un plan Marshall avec l'Afrique.
Oui, un sujet sur lequel le journal Die Zeit est revenu. Jamais la politique allemande avec l'Afrique n'avait été aussi importante qu'aujourd'hui. Il ne s'agit plus d'une simple politique de développement, mais d'une lutte menée sur les causes de l'émigration. Le plan Marshall voulu par le ministre allemand de la coopération prévoit des investissements massifs dans les secteurs de l'éducation, de l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'industrie. Ces annonces sont pour l'heure vagues et sans soutien concret aux moyennes entreprises allemandes qui aimeraient investir sur le continent africain, conclut le journal.
Merci Rémi Malé pour nous avoir présenté l'Afropresse et on passe tout de suite à la dernière rubrique.
Blogosphère.
Les pré-congrès décentralisés du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, eh bien, ces pré-congrès se sont achevés le dimanche 30 avril dernier. Grogne des jeunes militants, demande de renouvellement des instances dirigeantes du parti et surtout le retour d'Alassane Dramane Ouattara à la tête du RDR. Retour donc sur 4 jours de débat avec notre invité. Notre invité ce soir, Moussa Bamba, le président de l'Union ivoirienne des blogueurs, et il a été interrogé par Nafissa Amadou.
Avant le congrès, le RDR organise actuellement des pré-congrès éclatés dans chaque ville, histoire de, je pense, de mobiliser les bases et puis de recueillir les différents avis avant le grand congrès, qui est très attendu, je peux le dire.
Très attendu, pourquoi ?
On pense que la question de la présidence du RDR sera résolue parce que il y a eu plusieurs plaintes, notamment concernant la présidence du président de la République, qui est en même temps président du parti. Donc je pense que cette question-là sera en même temps réglée durant ce congrès. Et puis je pense que tout le monde attend, sans le dire, le prochain cheval du RDR, les présidentielles 2020. Ou bien comment est-ce que ça va se dérouler pour 2020.
Mais vous, en tant que blogueur, comment est-ce que vous voyez tout cela?
En tant que blogueur, nous, on ne peut que saluer ce pré-congrès parce que il y va de la démocratie. Si c'est vraiment pour recueillir les avis de la base et puis se préparer, je pense que tout ça, ça contribue à l'avancement de la démocratie.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, d'Henri Konan Bédié, met le cap sur la présidentielle de 2020, sans se soucier évidemment de son allié, le RDR. Cela ne risque-t-il pas de capoter la fusion des deux partis, selon vous?
Bon, les partis membres du RDR n'ont pas avancé main dans la main. Il y a eu des rencontres. C'est vrai que rien n'a fuité de ces rencontres, notamment entre le président Bédié et puis le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À l'annonce de la candidature du PDCI pour 2020, il y a eu une rencontre entre les cadres des deux grands partis. Donc, je pense que des négociations sont entamées. Donc, c'est tous ces résultats-là donc, que nous sommes en attente.
D'accord. Nous allons parler de l'économie ivoirienne. Elle va bien?
Oui. Selon les chiffres, les différences, en tout cas, elle va bien, avec une croissance généralement qui tourne autour entre 8 et 9% par année. L'économie semble bien se porter.
Mais on aura appris que le prix du cacao payé aux producteurs a été baissé de 1100 francs CFA le kilogramme à 700 francs le kilogramme.
À 700 francs, effectivement, le prix a été baissé. Par rapport, c'est vrai qu'il y a eu le secteur du cacao a connu pas mal de remous ces derniers temps. Concernant le prix qui était promis d'hors champ et puis la réalité sur les marchés internationaux. Donc, je crois qu'après analyse, le prix a été revu à la baisse à 700 francs.
La population, elle dit quoi?
C'est un secteur assez intensif parce que l'agriculture, c'est le moteur même de l'économie. Avec l'exportation, notamment la Côte d'Ivoire est premier exportateur de cacao. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques avancements dedans, mais bon, pas de troubles, pas quelque chose d'assez notable.
Comment vous lisez tout ça, là, vous?
Le coût, ça répond à des lois économiques. Le coût du cacao, je pense que c'est fixé par des lois économiques, des offres et des demandes et tout. Donc, je pense que les producteurs sont bien conscients que les coûts vont toujours fluctuant. C'est vrai qu'il y a une bonne période où les coûts étaient assez élevés, mais bon, il a fallu faire face à la réalité du marché.
Voilà. Aussi, on aurait appris que le président Ouattara aurait mobilisé son gouvernement pour lever 1000 milliards de francs CFA, qui équivaut à 1,5 milliard d'euros pour enflouer les caisses de l'État, alors que, bon, là, la communication du gouvernement ivoirien vante sa situation économique positive et qu'il y a ça aussi qui vient. À part ça, on aurait appris également qu'il y a une négociation de 400 milliards de francs CFA, appui budgétaire avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ne voyez-vous pas une contradiction entre la version officielle que l'économie ivoirienne va bien et la réalité?
Il faut dire aussi que le président a entamé de gros contrats dès son ascension au pouvoir, notamment avec l'autoroute, avec le troisième pont. On peut bien comprendre que, certes, l'économie est grandissante, mais qu'il a fallu réinvestir tout cela dans des infrastructures dont la Côte d'Ivoire faisait défaut. Maintenant, juger l'opportunité ou non de ces infrastructures, je pense que c'est là que revient la question.
Justement, je voulais venir à cette question-là. Vous, qu'est-ce que vous pensez-vous que vraiment que le moment s'y prête pour lancer tous ces travaux-là?
Pour ma part, je dirais oui, parce que c'est quelque chose qu'il va bien falloir faire un jour ou l'autre. On a besoin de routes, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de beaucoup de choses. Je pense qu'il est important de retarder des choses dont on a besoin. Je ne pense pas. Je pense que ça a été important. Maintenant, peut-être, je n'ai pas tous les éléments pour savoir si on avait véritablement les moyens pour entreprendre cela. Mais bon, les faits sont là. On voit l'autoroute, on voit le pont, on voit certaines dépenses encore engrangées par le gouvernement. Bon, en tout cas, les faits sont là. Maintenant, j'ai l'opportunité, je ne maîtrise pas totalement les caisses de l'État. Je ne sais pas de combien nous disposons. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question.
Voilà, c'était Moussa Bamba, le président de l'Union ivoirienne des blogueurs, qui était interrogé par Nafisa Amadou. Et c'est bientôt la fin de ce magazine Afrique 7 jours. Au micro, Eric Topona, et je vous quitte sur ce proverbe nigérian, et je cite « Le lion n'aime pas que les antilopes s'entendent entre elles. Il pourrait dormir à jeun. » Fin de citation. À la semaine prochaine. Could you be loved?